et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 janvier. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron décidé à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Les propos du président de la République dans la presse mettent le feu aux poudres à l'Assemblée nationale qui discute du pass vaccinal. On en parle largement dès le début du journal, après les autres titres, Anaïs.
Les négociations salariales chez les routiers vont-elles aboutir? Dernière réunion aujourd'hui. Dans les Bouches-du-Rhône, une ville sous la fumée d'un incendie depuis plus de 10 jours. Et puis Bergerac aux Anges, le club périgourdin jouera contre Saint-Étienne en Coupe de France de football.
Les invités d'Inter ce matin avec vous, Léa, à 7h50.
Un film bouleversant, dur, réaliste, dont Wistreham, adapté du livre de Florence Aubenas. Emmanuel Carrère raconte le quotidien des femmes de ménage sur un ferry de la Manche. Il nous en parle à 7h50 avec l'une de ses actrices, elle-même ancienne femme de ménage et incandescente dans le film. Elle s'appelle Hélène Lambert.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Avec donc le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, également monsieur autorité dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Vous pourrez dialoguer avec lui. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Jeter de l'huile sur le feu d'un sujet déjà explosif. Les mots chocs ce matin du président de la République qui font réagir la classe politique, on va y venir, et bien au-delà. Dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France, Emmanuel Macron a su mettre une pression sur les non-vaccinés, je cite, en limitant autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. Et je cite toujours le chef de l'État, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Emmanuel Macron fait clairement le choix de la confrontation.
Et c'est peu dire qu'on est loin des dernières sorties présidentielles. 15 décembre, TF1, j'ai appris, mea culpa sur les petites phrases blessantes et déclarations d'amour au peuple de France. 31 décembre, vœux aux Français, restons unis, bienveillants, solidaires. 4 janvier, le Parisien, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Changement de ton, bien plus que changement de fond. Emmanuel Macron écarte toujours l'obligation vaccinale et le tri des patients non vaccinés à l'entrée des services de réanimation. Mais vrai tournant quand le président met symboliquement 5 millions de Français au banc de la société. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Les non-vaccinés pourtant n'enfreignent aucune loi, quoi que l'on en pense sur le plan moral. Le président, nous dit ses conseillers, assume pleinement ses propos.
Et donc Simon, c'est sur ce ton qu'il va entrer en campagne.
Il y est déjà. Pas de faux suspense, j'ai envie, assure Emmanuel Macron. Difficile de faire plus clair. Et ce choix de la provocation en est une preuve supplémentaire. Le chef de l'État emprunte à ses adversaires la stratégie du conflit, du clash qu'il dénonce pourtant dans cette interview. En stigmatisant une partie de la population, qui de toute façon ne votera pas pour lui, Emmanuel Macron espère rallier, les excéder, les exaspérer, en désignant ses ennemis, ses irresponsables, dragués par une partie de ses concurrents. Il veut se poser en chef de file des raisonnables, donc de la majorité, 90% de vaccinés, 10% de non-vaccinés. Le calcul est vite fait. La politique du clivage, facile pour un candidat, beaucoup plus périlleux pour un président.
Merci Simon Le Baron. Et en effet, les réactions indignées n'ont pas tardé. Des propos choquants et violents pour Christiane Taubira. Il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. C'est une faute politique selon Yannick Jadot. Et à l'Assemblée où les débats sur le pass vaccinal avaient repris hier soir sur un ton plus apaisé, voilà que ces propos ont remis le feu aux poudres. Le patron des Républicains ne veut plus cautionner un texte qui vise à emmerder les Français. Et Julie-Marie Lecomte, l'examen du projet de loi, une nouvelle fois interrompu.
2h du matin, le Républicain Marc Le Fur, qui préside les débats, jette l'éponge.
Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies.
En début de soirée, gouvernement, majorité et opposition s'étaient pourtant entendus pour exempter de passe vaccinal les 12-16 ans dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. Dès l'interview parue, la machine s'enraye. Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste.
Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder?
Les prises de parole s'enchaînent pour sommer Jean Castex de venir s'expliquer. Annoncé, le Premier ministre ne viendra finalement pas et c'est fort dommage, juge Damien Abad, le patron des députés Les Républicains.
Je pense que le Premier ministre a eu la pression pour ne pas venir. Comment se fait-il qu'un président de la République en plein débat sanitaire puisse avoir des propos comme cela? C'est tout sauf un dérapage.
La réalité, c'est que le président de la République, il a fait ça pour hystériser le débat, pour le bipolariser,
et il le fait pour installer le match avec Le Pen.
Les députés exigent des excuses d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Pour la majorité, le président de la République n'a pourtant fait que parler vrai. Les débats sont censés reprendre à 15h cet après-midi.
Signe en tout cas de cette extrême tension sur le sujet. En Guadeloupe, le directeur du CHU a dû être exfiltré par la police, séquestré, frappé à la tête et aux côtes par des militants qui réclament le paiement des salaires des agents suspendus pour ne pas s'être fait vacciner. Et pendant ce temps, la pression s'accroît sur les hôpitaux. 3000 nouvelles admissions en 24 heures. À Bordeaux, l'immense majorité des malades en réanimation sont non vaccinés et certains le regrettent amèrement. Jules Brelaz, France Bleu Gironde, a rencontré cette habitante de Bègles, hospitalisée juste avant Noël.
Elle a passé Noël et le nouvel an en réanimation. Nathalie est une patiente Covid de 49 ans atteinte d'obésité. Elle souffre d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le vaccin, dit-elle, lui aurait évité d'être branchée sous oxygène.
Ça a été très dur. Quand on vous dit « vous êtes sur la crête, il va peut-être falloir vous intuber ». Et on ne sait pas si demain vous serez là. Il y a les espèces de masques qui vous envoient de l'oxygène à fond, à fond, à fond. Chaque respiration, vous la savourez, quoi. Parce que vous ne savez pas si derrière, il y en aura une autre. Mais je crois que je suis bien placée maintenant pour dire que, effectivement, je regrette de ne pas m'être fait vacciner. Si tu ne veux pas atterrir en réa avec un tube dans la gorge, eh ben, tu le fais.
Nathalie n'est pas la seule patiente à regretter d'avoir refusé le vaccin. Le docteur Pierre Camp est chef de clinique de réanimation à l'hôpital Pellegrin.
Non, c'est extrêmement fréquent. La plupart des Covid hospitalisés ici sont non vaccinés. Quand on arrive à les sauver, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre filet après la réanimation. Ils sont sur la dernière étape médicale. Donc, si ça passe ou ça casse. Pour certains, ils voient la mort peut-être passer devant eux. Et ils se disent, bah ouais, finalement, une petite injection, ça m'aurait peut-être évité tout un long séjour en réanimation. Donc, ils le regrettent amèrement.
Sa patiente, Nathalie, elle, a déjà convaincu son mari et sa belle-mère d'aller se faire vacciner.
Jules Brelaz, 270 000 nouveaux cas en un jour en France, un record, 200 000 au Royaume-Uni. New Delhi impose de son côté un confinement pendant le week-end. Le défilé de mode Armani annulé à Milan. Enfin, l'OMS s'alerte du grand nombre de ces cas d'Omicron, peut-être moins pathogène, mais la montée en flèche des taux d'infection pourraient avoir l'effet inverse. Plus il se réplique, plus il peut générer un nouveau variant, met en garde l'Organisation mondiale de la santé.
Il est 7h07, dernière ligne droite pour les négociations salariales chez les routiers.
Avec des prix qui ont encore augmenté de près de 3% en décembre, la question des salaires est centrale partout. Dernière réunion aujourd'hui, après un mois et demi de négociations, les organisations patronales des transporteurs routiers proposent 5% d'augmentation. Les syndicats en veulent 10% pour une profession qui manque de bras et d'attractivité. Laurent Kramer.
Comme dans la restauration, le Covid a joué un rôle d'accélérateur pour les chauffeurs routiers. Une convention collective désuète, rattrapée et dépassée par les augmentations du SMIC, des amplitudes horaires et des conditions de travail qui effraient les jeunes générations. Sans signal fort sur les salaires et l'organisation du travail, le transport routier va péricliter, s'alarme Thierry Douin à la CFTC.
Si aujourd'hui on ne fait rien pour la profession au niveau de cette convention collective, soit on ira au clash, soit les patrons auront tellement joué au jeu que le secteur du transport arrivera à une situation de manque de conducteurs comme on a vu en Angleterre où il n'y a pas que les salaires à changer, c'est les conditions de travail. Il faut arrêter de dire que c'est pas possible. D'autres secteurs le font, un équilibre qualité de vie au travail et qualité de vie personnelle. Et si on n'amène pas un certain sens dans le travail pour les jeunes ne rentreront plus dans ce métier.
Côté patronal, on souligne que les faibles marges et le dumping social avec les pays de l'Est rendent toujours cette équation impossible, mais la profession est déjà en recherche de 50 000 chauffeurs, un chiffre qui va doubler dans les mois qui viennent avec l'explosion du commerce en ligne et des départs massifs en retraite dans les années qui viennent chez les chauffeurs routiers.
Laurent Kramer, une première dans le secteur de la santé, une action de groupe contre Sanofi, des victimes de la dépakine. Le tribunal de Paris se prononce aujourd'hui sur la recevabilité de cette action. Si elle est recevable, cela pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance financière du préjudice. 11 jours dans la fumée, avec parfois une pollution de l'air comparable à celle de Pékin. Les habitants de Saint-Chalmat, près de l'étang de Berre, n'en peuvent plus. L'incendie d'un centre de recyclage des déchets a été maîtrisé hier, mais continue de dégager de la fumée. Clémentine Sabrier.
Les habitants de Saint-Chalmat vivent dans la fumée depuis une dizaine de jours. Une fumée chargée en particules fines. Le seuil d'alerte de la pollution atmosphérique a d'ailleurs été dépassé dans la journée de lundi. Pour l'instant, impossible de savoir quel effet cela pourrait avoir sur la santé des riverains et sur l'environnement. Le maire de la commune, Didier Kelfa, est inquiet.
Ça pouvait être une catastrophe humaine, mais aussi une catastrophe écologique, hein, puisque effectivement, tout part de la nature quand le vent est favorable. Et puis surtout, les risques liés notamment aux infiltrations dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, si on venait arroser abondamment ce feu-là.
Pour protéger sa population, le maire a fermé toutes les aires de jeu, interdit le sport en extérieur et demandé aux écoles de ne pas faire sortir les enfants en récréation. Des mesures qui pourraient être suspendues dans les prochaines heures si le Mistral parvient à balayer la fumée.
Clémentine Sabrier, France Bleu Provence. Selon le maire, le centre accueillait 20 à 30 fois plus de déchets que prévu. Il envisage de porter plainte.
Il est 7h11, la suite du journal sur France Inter. Anaïs Feuga.
Le prix du gaz déclenche une crise au Kazakhstan. L'image était rare dans ce pays autoritaire tenu d'une main de fer. Des manifestants contre la hausse des prix du gaz dans les rues de plusieurs villes dans ce pays riche en pétrole et en ressources naturelles. Manifestations dispersées, état d'urgence décrété à Almaty et le gouvernement a été limogé ce matin. Des nouvelles du télescope James Webb qui vient de passer l'étape la plus difficile, celle de son déploiement de son bouclier thermique, 5 couches grandes comme un terrain de tennis chacune et minutieusement dépliées, étendues une par une depuis lundi. Le plus grand télescope au monde est désormais en bon chemin pour ses observations du cosmos. Pour eux, c'est le plus grand match de leur histoire. Les footballeurs de Bergerac National 2 affronteront les Verts en 8e de finale de la Coupe de France. Marc Bertrand, vous avez suivi ce tirage au sort hier soir avec l'équipe qui compte 2 joueurs originaires de Saint-Étienne. C'était le tirage de leur rêve et ce sera le match de leur vie.
Ils se sont pris dans les bras pour sauter de joie à l'annonce du tirage.
L'AS Saint-Étienne.
Antoine Le Thiévan et Samir Bakir, tous les deux nés à Saint-Étienne, ils ont grandi avec les Verts.
Oh putain, c'est bon ça !
L'attaquant de Bergerac en a la voix cassée, il ne peut pas s'arrêter de sourire.
Ah, c'est de la folie là, je suis encore sous le choc là, je suis trop content. Non, j'ai mon frère à jouer à Saint-Étienne, j'allais les voir au stade Geoffroy Guichard, je vis un rêve là. Je viens à rêve éveillé.
Samir Bakir regarde son téléphone, des dizaines d'appels. Il enchaîne les coups de fil pour motiver les copains.
Saint-Étienne Bordeaux, 4 heures, les gars. Faut faire des minibus, là. Bon, bah, c'est bon. Bon, super. Ciao, les frérots. Antoine, il est où ?
Antoine Le Thiévan, il est aussi dans un coin, au téléphone avec ses parents. Il était là-bas il y a quelques jours seulement pour Noël. Le maillot des Verts encore accroché au mur de sa chambre.
Peut-être il y a un bus de synthé de mes amis qui vont débarquer pour voir le match, là, parce que tout le monde va faire le déplacement pour venir. Donc, de se dire que je joue contre Saint-Étienne. Et c'est l'ironie de la Coupe de France, de la vie, c'est incroyable.
Ça va être le match de sa vie, mais le latéral de Bergerac ne compte pas se laisser impressionner.
Ah non, je sais pas qui va être sur mon côté déjà, mais je pense qu'il va passer un mauvais match, parce que je vais le fumer.
Voilà, bah on espère quand même un bon match pour les autres affiches. Le PSG recevra Nice, Marseille, Montpellier, Monaco se déplacera à Lens, les 100 et or qualifiés hier soir au bout du suspense dans le derby du Nord face à Lille.
Merci Anaïs Feuga, le zoom c'est dans 3 minutes. À Paris, une maison pour soigner les soignants.